Pit Stop, 14h, avec les demoiselles dans le retour. Passez une belle soirée, Marceau s'en vient. Bye-bye.
Collé sur ce qui se passe ici et ailleurs.
Je fais référence à l'investissement du groupe Trudel, 300 millions. On en a de besoin, puis ça presse.
Ouais, sauf que je pense pas qu'il y ait un Canadien au pays présentement qui peut fermer la trappe en bon Québécois, ouais. Donald Trump.
Les enjeux qui te concernent.
La ville est excellente pour gérer le déneigement.
Come on! Le but gagnant de la veille. La nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Ah, franchement, la gang, là. C'est vous.
Boulevard 102.1. Pour du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. C'est un excellent 60 minutes qui nous attend ce soir, puisque j'aurai le plaisir de recevoir Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Mais juste avant, on va aller voir ce qui se passe du côté de la météo pour ce qui est de Québec. Ça a été relativement correct pour aujourd'hui, on va se le dire. On avait quelques passages nuageux. On a même vu le soleil ce matin, donc on est gâté après tant de tempêtes. Avec le refroidissement aérien, je pense qu'aujourd'hui, ça a frôlé le moins 24 degrés, donc pas chaud pour la pompe à l'eau. Est-ce que ce sera la même chose ce soir? On parle de neige intermittente, 2 cm par endroit, c'est ce qu'on nous mentionne, des températures stables à près de moins 13. Pour ce qui est de demain mercredi, eh bien là, ce sera généralement nuageux avec un 30% de probabilité d'averse de neige en matinée, avec des rafales à 40 km/h, maximum de moins 6. Et en après-midi, bien, ça va être un genre de température ressentie de moins 20, nous dit-on, avec un minimum de moins 10 en soirée. Jeudi, ce sera une alternance de soleil nuage avec un maximum de moins 1. Et vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 5. Le podcast de Marceau le soir, ça dure 60 minutes. Et ce soir, j'ai le plaisir de rencontrer Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. On va aborder plein de sujets qui touchent les contribuables, donc votre argent. Restez là. Marceau le soir, ça part maintenant.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Marceau le soir.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables est avec nous. Salut Nicolas!
Bonsoir, ça va bien?
Ça va très bien, merci d'être là avec nous. On passe 60 minutes ensemble, puis je me considère comme très chanceux de t'avoir avec nous ce soir. Je pense que ça va être la même chose du côté des auditeurs qui découvrent peut-être pour une des premières fois la Fédération canadienne des contribuables. Est-ce que tu peux me résumer ce que c'est exactement comme organisation? Ton implication, qu'est-ce que vous faites concrètement pour le contribuable?
Oui, la Fédération canadienne des contribuables existe depuis 1990, donc c'est quand même une organisation qui a tout un historique. Essentiellement, notre mission est très simple, on veut moins d'impôts, on veut moins de gaspillage, puis on veut un gouvernement plus responsable. Donc, c'est pas mal les trois principales axes sur lesquels on se base pour faire notre travail essentiellement. On est une organisation à but non lucratif qui est présente dans toutes les provinces, ouais. Puis moi, je représente justement le Québec et aussi les affaires francophones au niveau fédéral. Je m'assure de couvrir pas mal les enjeux qui touchent aussi les francophones. Et dans le fond, on va s'assurer d'intervenir dans les médias et aussi sur la place publique et même des fois jusque dans les comités parlementaires pour faire valoir le point des contribuables, que ce soit pour justement analyser les budgets puis dénoncer certaines politiques publiques, que ce soit sinon de publier des rapports à chaque année. On publie entre autres notre rapport sur la transparence fiscale à la pompe. Donc, ça nous permet d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils payent en termes de taxes à chaque fois qu'il y a un litre d'essence qui est mis dans leur véhicule. On sort aussi à chaque année notre fameux rapport sur les changements fiscaux qu'on a présenté récemment, puis où est-ce qu'on démontrait aux Québécois que malheureusement, il y a des mauvaises nouvelles, entre autres, les taxes sur les matriculations ont quand même augmenté drastiquement à Québec et à Montréal. Ouais. Donc, c'est des rappels qui sont assez importants, puis ça fait partie de notre travail de s'assurer que le plus grand nombre de personnes que possible soient au courant de comment leur argent est trop souvent mal géré. Mais des fois, on arrive à remporter des victoires, justement, pour s'assurer qu'ils en gardent le plus que possible dans leur poche.
Puis, est-ce que vous travaillez de concert avec les politiciens ou vous êtes la plupart du temps pour le contribuable, donc contre les politiciens?
C'est une bonne question. On est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on est 100% du côté des contribuables en tout temps, mais on espère que les politiciens, peu importe le parti politique, adoptent un peu plus cette vision qui est pro-contribuable, donc qu'ils comprennent qu'effectivement, tant au Québec surtout, est-ce qu'on paye beaucoup d'impôts et de taxes, qu'on est les plus taxés en Amérique du Nord, on aimerait ça avoir une prise de conscience de la part de nos élus parce que effectivement ce fardeau-là soit réduit. Puis aussi, quand on expose certains faits, c'est des augmentations de salaire, salaire qui ne devrait pas avoir lieu ou des bonus ou même sinon des dépenses ridicules, ben, ça nous permet de faire réagir la classe politique puis la forcer à prendre conscience de ça. Donc, on est quand même non partisans à ce niveau-là, que ce soit les conservateurs, les libéraux, peu importe qui va être encore au pouvoir après les élections fédérales, on va s'assurer de les talonner pour les contribuables.
Est-ce que vous vous occupez de la politique provinciale et fédérale en même temps?
Dans mon cas, ben, l'organisation est un peu divisée comme telle, c'est-à-dire qu'il y a des directeurs dans chaque province. On a un directeur pour les provinces atlantiques. Dans mon cas, je m'occupe du provincial. On a un directeur qui est attitré que pour les activités fédérales, avec aussi un journaliste d'investigation. Le nom de notre directeur, c'est Franco Terrazano, puis c'est un de mes bons collègues. Donc, on travaille des fois de concert sur certains, certaines politiques, entre autres, celle que je peux nommer, c'est la fameuse interdiction des voitures à essence au diesel pour 2035. Ben, on ne le rappellera jamais assez. Il y a autant cette interdiction là, au niveau provincial du Québec et de la Colombie-Britannique qu'au niveau fédéral. Donc, c'est un combat qui se fait des deux côtés. Il y a aussi l'impôt sur le gain en capital qui a été fait au niveau fédéral, qui a été repoussé d'un an. On espère que ça va être repoussé de manière permanente. Mais on se souvient aussi que le Québec avait essayé de suivre le pas en essayant d'harmoniser. Finalement, l'harmonisation n'aura pas eu lieu. Donc, c'est un combat qu'on a encore fait des deux côtés, tant au provincial qu'au fédéral.
Et Nicolas Gagnon, sur l'échiquier gauche-droite, la Fédération canadienne des contribuables se situe à quel endroit? Est-ce que vous êtes bien au centre ou vous êtes peut-être un peu plus de la droite économique et le cœur à gauche, mettons?
Je pense que c'est un peu toutes ces réponses-là en même temps, parce qu'à la fin de la journée, je veux dire, avoir des finances assainies et avoir ne serait-ce que moins de gaspillage. Ça, je reprends souvent cet exemple-là, par exemple. C'est sûr que les gens de droite ou plus économiquement à droite s'intéressent beaucoup au discours de moins d'impôts, avec raison, parce qu'on est d'accord d'une certaine manière que ça encourage l'investissement, ça permet aux gens de se lancer en affaires, bref. Mais de l'autre côté, que vous soyez de gauche ou de droite, vous ne voulez pas que votre gouvernement gaspille votre argent pour des raisons ridicules. Quelqu'un de gauche voudrait que son argent soit utilisé pour les services sociaux et les programmes qui lui servent directement. Que ça finisse dans des dépenses frivoles, des augmentations de salaire de hauts fonctionnaires. Puis finalement, sur la question d'avoir un gouvernement plus transparent, bien, tout le monde va avoir un gouvernement plus transparent à gauche comme à droite. Donc, on est capable de rejoindre à peu près tout le monde. C'est sûr que quand on prend, par exemple, le débat qu'on a eu au Québec, puis c'est une victoire quand même symbolique, la baisse d'impôts de ne serait-ce que de 1% qu'on a eu en 2023, on s'appellera qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui dénonçaient ça, ne serait-ce que dans les groupes, dans les syndicats que Québec solidaire ou le Parti québécois, qui sont des partis plus à gauche, alors que les partis plus à droite étaient en faveur. Mais on a vu quand même dans les dernières années, par exemple, ces partis-là aussi dénoncer, entre autres, l'augmentation des salaires des députés. Ceux qui ont le plus dénoncé l'augmentation des salaires de 30 % à l'Assemblée nationale, c'est les partis de gauche. Donc, on est capable de travailler avec l'un ou avec l'autre, d'où la nature qu'on est quand même non-partisan et on peut travailler donc avec tout le monde dans les intérêts des contribuables.
Des fois, je suis en entrevue, je parle avec des politiciens, puis je leur dis qu'on est les citoyens les plus imposés en Amérique du Nord. Quand on est au Québec, là, on est les citoyens les plus imposés en Amérique du Nord, puis ça semble pas créer une genre d'angoisse en eux. Puis je me dis, mais attends un peu, c'est parce que est-ce qu'ils sont conscients de ce que je suis en train de leur dire, qu'on est les citoyens les plus imposés en Amérique du Nord? Je parlais avec Maître Bellemare hier, qui était en politique pendant quelques temps. Il était ministre de la Justice, puis il disait les gouvernements, en fait, les partis politiques, quand ils établissent leur programme, sont un peu plus de droite économique, puis quand ils arrivent au pouvoir, là, sont un peu plus de gauche. Et quand je leur jase à ces politiciens-là, pourtant, j'ai l'impression qu'ils sont capables de réfléchir comme tout bon contribuable, mais de l'autre côté, ils ont comme une hésitation à dire « c'est vrai, on paye beaucoup trop d'impôts pour le retour sur notre investissement, on perd énormément d'argent ». Je parlais ce matin avec une gang qui regarde un peu ce qui se passe du côté du dossier Saclic. C'est un dossier qui était supposé coûter, je n'ai pas les chiffres exacts, mais autour de 450 millions. Finalement, on est rendu à presque 600 millions, donc encore là, dépassement de coûts. Et ça semble pas déranger tant que ça les politiciens.
Ça devrait même les hanter puis les empêcher de dormir, là, au minimum, parce que à la fin de la journée, quand on prend justement l'exemple de Saclic, où est-ce que les dépenses ont quasiment doublé comme tel, c'est pas normal que ça arrive au final, surtout quand on prend en considération que la SAQ À la fin de la journée, quand ils ont fait cette réforme-là, c'était aussi pour réduire un peu le poids administratif qui est lié au traitement de tous les renouvellements de plaques, etc. Ben, à la fin de la journée, ils ont réussi à investir un montant astronomique dans une nouvelle superstructure informatique, puis ils ont quand même engagé plus de fonctionnaires. Donc, on n'a pas été en mesure d'alléger la bureaucratie, on a dépensé encore plus et on n'a pas l'impression non plus qu'il y a eu une certaine forme de reddition de compte. On espère qu'il y aura une intervention de la vérificatrice générale sur le dossier. Mais il faut plus que ça. Il faudrait aussi avoir de manière permanente un directeur parlementaire du budget à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qu'on a martelé assez souvent. Il y en a un à la Chambre des communes, mais au Québec, on aurait besoin d'un qui puisse dire exactement, voyons, c'est ça qui arrive quand on met l'argent des contribuables dans tel programme ou dans tel projet. T'sais, notamment, la question de la filière électrique. On a le discours du gouvernement par rapport au retour sur investissement. Puis après ça, on a le discours qui est donné par les analystes indépendants qui démontrent que finalement, le retour sur investissement, ça va prendre bien plus longtemps que prévu avant qu'on le voie pour les contribuables. Donc, c'est des décisions comme ça qui sont pas prises souvent de manière assez éclairée, puis où est-ce que trop souvent on a l'impression que les groupes, la société civile ainsi que des entités indépendantes sont tassées de l'équation avant que la décision de faire cette dépense-là soit prise. Puis malheureusement, on se retrouve après ça avec justement, une situation chaotique. C'est aussi vrai au Québec qu'à Ottawa. Je prends l'exemple le plus fameux qu'on peut sortir, c'est Arrive-Can au fédéral, que finalement, après toutes ces dépenses-là, on a réalisé que non seulement on a dépensé des millions pour quelque chose qui aurait pu coûter quelques centaines de milliers de dollars, mais en plus, ceux qui ont géré Arrive-Can au gouvernement ont obtenu des primes de plus de 350 000 $. Donc, on a réussi à dépenser puis à dépenser, puis il n'y a eu aucune reddition de compte. Puis, à raison, les contribuables, quand ils voient ça aller, ils se disent finalement, notre argent, elle sert à n'importe quoi, sauf à nous servir directement.
Ouais, puis tu parlais de directeur parlementaire. Bon, il y en a un au fédéral, tu aimerais qu'il y en ait un au provincial. Qu'est-ce que ça ferait concrètement? Parce que quand on regarde l'administration de Justin Trudeau, ben, au départ, avant d'arriver, il promettait des déficits. Ils ont réussi quand même leur promesse puisqu'ils en ont fait des déficits puis plus qu'on en demandait, j'imagine. Moi, j'ai pas voté pour Justin Trudeau, mais ça n'a pas empêché de faire des déficits. Le directeur parlementaire servirait à quoi?
Ben, le directeur parlementaire, au minimum, nous permet d'avoir l'heure juste, ce qu'on a rarement de la part du gouvernement, entendons-nous. Comme tu l'as mentionné, là, par exemple, au fédéral, on parlait des déficits. Ben, on était supposé avoir des déficits modestes. Finalement, on était rendu dans les 40 milliards de déficits. Puis ça, cette année, on a appris non seulement que l'année dernière, on a réussi à quasiment l'augmenter de 50 %, là, on était rendu à 64 milliards. Mais là, cette année, on était à environ déjà 48 milliards de déficits avec la mise à jour économique qui a été faite. Et ben là, on vient de faire un recul sur la hausse de l'impôt sur le gain en capital. Donc, c'est 7 milliards de moins que le gouvernement va aller chercher. Donc, là, on est rendu à un déficit de 54 milliards qui a comme augmenté out of the blue comme ça, ne serait-ce qu'au cours des derniers mois. Donc, des fois, on se dit, malgré l'existence de chiens de garde comme le directeur parlementaire du budget, on remarque à quel point. Ben, il y a une perte de contrôle quand même avec les finances publiques. Sauf que, au moins, on a l'heure juste, au moins, on sait exactement ce qui se passe. Par exemple, la filière électrique, c'est grâce au travail de M. Giroux, et de ses collègues, si on sait que finalement, le retour sur investissement des 50 milliards qui ont été garrochés là-dedans par les différents gouvernements au cours des 3 dernières années, ben, que ce retour-là va prendre peut-être 20 ans, voire 25 ans avant que ça se fasse. Puis ça, c'était avant qu'on ait toutes les annonces qui ont été faites par Donald Trump il y a quelques temps. Donc, ça se peut que ça soit bien pire que ce que c'était auparavant. Mais au moins aussi, ça donne comment dire, des informations au public, ça donne des informations aux partis d'opposition, aux journalistes, aux gens de toute la société civile qui a toutes les raisons du monde à intervenir dans le débat quand on parle de l'utilisation de l'argent des contribuables.
Je te parlais de Saclic tout à l'heure, j'ai les chiffres exacts. 458 millions de dollars qui était le budget initial. Là, maintenant, la facture totale, on dit la facture totale, là, mais je pense qu'il reste encore de l'argent à trouver qu'on a dépensé sur le dossier. C'est 600 112 millions. Donc, 458, c'était supposé coûter. Ça a coûté 612 millions. Puis on dirait que les politiciens, ça leur dérange pas tant que ça. Puis il n'y a pas personne qui a perdu leur emploi là, dans ce dossier-là. Bon, on a changé une des têtes dirigeantes, puis on l'a mis ailleurs, on l'a placé ailleurs. Mais ils sont jamais responsables de l'argent qu'ils dépensent puis l'argent qui est perdu. Et ça, c'est pas juste au Québec, c'est à la grandeur du Canada, là.
C'est effectivement la grandeur du Canada, puis on pourrait en nommer énormément d'exemples comme ça au fédéral, qu'on a déterré ça il n'y a pas longtemps, entre autres, là, l'histoire que à chaque mois, on dépense pas loin de 76 000 $ pour que des fonctionnaires puissent littéralement louer des œuvres d'art puis les mettre dans leur bureau. Chez Affaires Global Affairs Canada, on dépense pas loin de 51 000 $ par mois en alcool. Donc, tu sais, c'est des situations même récurrentes qu'on a appris récemment. Parc Canada a dépensé pas loin de 800 000 $ pour abattre 84 chevreuils. Pour donner une idée, là, pour comment ils ont réussi à monter la facture comme ça, c'est qu'ils ont fait venir des chasseurs de la Nouvelle-Zélande, d'Australie et des États-Unis, parce qu'apparemment, on n'a pas de chasseurs au Canada. Puis ils ont réussi à leur donner des armes automatiques puis un hélicoptère pour chasser des chevreuils, parce qu'il y avait un problème de surpopulation d'une sorte en particulier. Puis ils ont flambé 800 000 $ pour une opération qui aurait été un échec monumental. On a des histoires comme ça, puis ça, c'est sans oublier aussi le fait qu'on a des sociétés d'État qui tirent de la patte comme ça se peut pas. Via Rail, qui a des pertes à répétition. On a aussi Post-Canada, que ça n'a pas de bon sens. Donc, où est-ce qu'on a des pertes? Puis on se demande finalement à quoi ça sert de maintenir cette société-là en place. Puis, donc, la prise de conscience, autant au Québec, on va avoir des dépenses complètement débile, là, qu'on garde 612 millions pour sa clique, alors qu'on se demande vraiment, la fameuse question de Pierre-Yves McSween, en avions-nous vraiment besoin de sa clique? Ça aurait dû être la question initiale, mais ne serait-ce que de dire, ben, si on est pour aller vers sa clique, c'est quoi que ça amène? Est-ce que ça permet de réduire la bureaucratie? Est-ce que ça permet d'avoir des services plus efficaces? Est-ce que ça permet d'avoir besoin de moins de fonctionnaires et de moins de centres de services pour justement réduire les coûts?
Ouais.
Mais il semble, malheureusement, sa clique n'a pas du tout amené aucun de ces résultats-là, mais on a dépensé 612 millions quand même. Au fédéral, effectivement, c'est des situations similaires à perpétuité qu'on a également.
Ouais. Mais Nicolas Gagnon, la Fédération canadienne des contribuables n'a jamais été autant précieuse aux yeux du public, à la grandeur du Canada. Parce que je vais te dire, tu sais, en travaillant à la radio, il y a souvent des gens qui se confient à nous. Là. Ils ont l'impression qu'on est leurs meilleurs amis. Des fois, ils sont dans leur véhicule pendant des heures et des heures. On pense entre autres aux camionneurs, puis c'est juste nos voix qui entendent. Donc, ils sont portés un peu plus à se confier. Il n'y a rien de plus humiliant pour un couple de contribuables qui travaillent 40 heures par semaine puis qui ont de la difficulté à se loger, nourrir leurs enfants, faire des activités avec les enfants. Ton gars ou ta fille veulent faire, je sais pas moi, tiens, prenons le hockey, c'est assez populaire. Ton gars veut faire du hockey puis tu dis à tes peu, là, il va y avoir du déplacement. J'ai pas les moyens, même si je travaille 40 heures par semaine puis que ma conjointe travaille 40 heures par semaine, de t'offrir cette activité-là qui est le hockey. Puis là, tu apprends avec la Fédération canadienne des contribuables que nos politiciens dépensent de l'argent sans compter, qu'ils ont des budgets d'alcool qui n'ont pas de maudit bon sens. C'est humiliant quand on entend ça, Nick. C'est vraiment humiliant. Puis est-ce que tu as déjà eu l'impression, tu sais, moi, j'ai un modèle là, de politicien que j'adore, c'est Margaret Thatcher. Une femme qui a pris des décisions qui faisaient en sorte qu'elle allait peut-être pas être réélue là, au prochain mandat, mais elle savait que c'était les décisions à prendre pour son peuple, puis elle a sauvé son peuple de la faillite puis de la catastrophe. Bien, on va-tu en avoir des politiciens de ce genre-là dans les prochaines années? Parce que visiblement, si les libéraux restent au pouvoir, ils ont toujours été un peu plus à gauche, les libéraux. Si les conservateurs arrivent, bon, ils ont toujours été un peu plus de droite économique. Est-ce qu'ils voient un avenir, les contribuables, Nick?
Ben, il doit en avoir un avenir, puis il y en a un avenir, puis on a toutes les raisons de rester optimiste malgré les circonstances. Puis je me mets aussi à la place des contribuables, puis pas n'importe quel. Il y a aussi ceux qui ont vu leur pouvoir d'achat vraiment prendre une débâcle au courant des dernières années, mais on a aussi ceux qui sont rendus de plus en plus nombreux devant les banques alimentaires, puis qui se disent, eux autres aussi, là, il y en a là-dedans, c'est des contribuables, puis ils sont plus capables de se nourrir à partir de leurs propres moyens. Puis pourtant, c'était possible pour eux. Puis je pense aussi à cette génération de jeunes comme moi qui... en très grande partie, ont perdu le rêve de devenir un jour propriétaire. C'est extrêmement grave comment ça a été glissé de nos mains en tant que génération, puis ça va être très dur de le récupérer, ce pouvoir-là. Mais il y a un changement culturel qui est en train de se faire. Il y a vraiment un changement de discussion aussi qui a lieu. Puis ça, je l'ai souvent mentionné en ondes, puis parce que moi, je suis pas un pro-Trump, mais j'apprécie l'électrochoc que ça nous amène, parce que présentement, il y a enfin une prise de conscience sur le fait qu'on ne peut pas être dépendant de nos voisins constamment. On ne peut pas non plus en continuer à miser sur des politiques économiques de quasiment de décroissance, alors qu'on est en perte d'autonomie. On est aussi au niveau de notre indépendance énergétique, elle est fortement compromise. Il faut le rappeler que la moitié de l'énergie qui rentre au Québec, c'est du pétrole et du gaz qu'on importe et qui passe en bonne partie par des pipelines qui sont sur le territoire américain. Donc, tu sais, il y a toutes ces ces discussions-là qui reviennent tranquillement, où est-ce que les gens deviennent de plus en plus intéressés à parler de projets de développement énergétique et d'exploitation des ressources naturelles, comprennent que pour rester compétitif et pas voir nos entreprises fuir vers le sud, ben, il faut avoir un cadre fiscal et réglementaire qui fait en sorte que justement, on paye moins d'impôts, il y a moins de taxes, il y a moins de réglementations, puis on est en mesure d'être plus performant, puis ça permet à tout le monde d'en tirer un peu de bénéfice. Là, malheureusement, on est ancré dans une forme de peur présentement, puis on a aussi l'impression, il y a l'aspect de l'incertitude tant par rapport à ce qui s'en vient au niveau d'une possible guerre commerciale, mais de comment nos élus veulent réagir. Est-ce que c'est avec d'autres tarifs supplémentaires? Est-ce que c'est ce qui serait clairement pas une bonne chose à faire présentement?
Ouais.
Donc, essentiellement, je pense que tranquillement, il y a un réveil qui se fait, mais pour venir au point que tu as mentionné initialement par rapport à Mme Thatcher, c'est qu'elle, elle n'est pas allée en politique pour devenir populaire.
Exact.
Et là où est-ce qu'on est rendu dans l'histoire, il faut prendre des décisions qui sont malheureusement impopulaires. Ça implique, oui, des réductions de coûts, ça implique des révisions de programmes, ça implique à ce que le gouvernement, tant à Québec et à Ottawa, prenne les livres, les ouvre, puis fasse « OK, ça c'est tel programme avec tel fonctionnaire pour tel ministère, est-ce qu'on en a réellement besoin? Est-ce que ça sert à les contribuables? Est-ce que le privé peut le faire à la place? » Puis si on répond non, oui ou peu importe, ben on le coupe. Comme ça a déjà été fait dans les années 90, comme ça a été fait par le gouvernement de Harper également pendant la récession mondiale, et comme ça a été fait, ne serait-ce qu'en surface en 2015 par le gouvernement libéral. Donc ça doit être fait. C'est présentement aux États-Unis là, avec le fameux Dodge. Donc tout ça ayant lieu présentement, on espère qu'on va voir ce même exercice-là être fait au Québec et au Canada.
Ouais.
Mais entendons-nous, ça ne sera pas fait par des gens qui veulent être populaires. C'est des gens qui vont accepter qu'une fois que tu ouvres la boîte de Pandore, tu vas faire un mandat puis c'est tout, parce que tu vas avoir toutes les forces du statu quo, les syndicats et compagnie, qui vont essayer de s'opposer au moindre changement, ne serait-ce qu'au niveau des programmes de la fonction publique en général.
Oui, c'est exactement ce que je me faisais dire hier par un ancien politicien, c'est que quand tu veux te présenter en politique, les groupes de pression ne sont pas nécessairement là, ne s'occupent pas vraiment de toi, mais à partir du moment où tu prends le pouvoir et tu deviens ministre, eh bien là, les groupes de pression s'amènent, puis on dirait que ces groupes de pression-là ne sont pas responsables du fait que c'est peut-être à cause d'eux autres que le Québec ne va pas si bien qu'il devrait aller. Puis tu parles du gros orange l'autre bord, tu sais, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le gros orange, moi, je te suis là-dessus. Il est en train de nous donner une leçon de vie, puis je vais la prendre, cette leçon de vie-là, puis j'espère juste que tous les Canadiens vont prendre cette leçon de vie-là, c'est-à-dire que le grand frère, là, qui a toujours été à côté de nous autres, dont on a toujours été dépendant, bien, il est en train de prendre ses distances avec nous autres, puis on va devoir voler de nos propres ailes. Je regardais un sondage pour GNL Québec, tu sais, on avait posé la question à des politiciens au Québec. Ouais, GNL Québec, est-ce qu'on pourrait le relancer, ce projet-là? Et les politiciens ont dit, ouais, mais là, ça va prendre de l'acceptabilité sociale. Là, il y a un sondage qui est sorti, puis la majorité des Québécois sont maintenant d'accord avec GNL Québec, alors qu'il y a de ça quelques années, quand on en parlait, les gens étaient très réfractaires. On dirait que quand on arrive au pied du mur, là, finalement, on va l'accepter. Tu sais. Va falloir qu'on se prenne en main, puis le gros orange nous apprend ça. Là.
Absolument. Puis, tu sais, comme on disait, le fameux changement de discussion sur GNL Québec puis NRJS, ça démontre à quel point peut-être que les gens ont pris conscience à quel point que finalement, on n'a plus le choix, on ne peut plus se targuer, essayer de plus vert que vert. Il y a possibilité de faire nos propres infrastructures énergétiques en étant justement, en ayant une conscience environnementale, puis en utilisant ces nouveaux carburants-là sur les marchés pour aller réduire les émissions ailleurs. Puis c'est faisable et ça se fait présentement. Donc, pourquoi est-ce que le Canada ne pourrait pas tirer son épingle du jeu plutôt que de continuer à se faire écraser comme il fait présentement? Mais oui, je pense que c'est un réveil qui était nécessaire. Tant qu'à moi, c'est quand même dommage parce que je reste quelqu'un qui est un ardent défenseur du libre-échange, du libre-marché, puis j'aurais voulu que le Canada et les États-Unis maintiennent les meilleures relations au monde. Je pense qu'on va rester des alliés quand même, puis ça, j'ai aucun doute là-dessus. D'un, on ne sera jamais annexé, ça, j'ose le croire. Et surtout, je pense qu'on va être en mesure de se relever de cette phase-là, mais il faut que cette prise de conscience rejoigne nos élus également, parce qu'on parle d'acceptabilité sociale. Bien, l'acceptabilité sociale, ça prend du leadership, puis c'est quelque chose qui se fabrique d'une certaine manière. C'est plate à dire. Oui, les sondages, d'un, les sondages personnages, on peut leur faire dire à peu près tout ce qu'on veut, dans une certaine mesure, bien sûr. Donc, ça peut être présenté de plusieurs angles. Mais il n'y a pas juste les sondages, il y a aussi toutes les consultations qui vont être faites sur le terrain. Et il faut aussi considérer que quand on fait un projet comme GNL Québec au Saguenay, bien, l'acceptabilité sociale qui compte, c'est celle des gens du Saguenay. Les gens de Montréal, là, c'est bien beau, mais ils ne devraient pas être considérés dans l'équation en tout respect. Je crois que de la même manière que si Montréal a un projet d'infrastructure du même type, je ne pense pas qu'il y ait un terminal de liquéfaction, ben on n'aimerait pas ça, par exemple, que les gens de Saguenay ou les gens de Toronto débarquent ici en disant ben, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. À la limite, par contre, si on parle de l'utilisation de l'argent des contribuables, là, c'est un enjeu qui touche à peu près tout le monde, comme dans le cas de Nordvolt. Il n'y a pas juste les gens à Saint-Basile-le-Grand qui sont concernés. Tous les Québécois ont un peu de leur épargne ou un peu de leur argent qui sont investis dans ce projet-là. Donc, il y a quand même la notion d'acceptabilité sociale est très malléable. On peut la faire. On peut y faire dire à peu près n'importe quoi, mais c'est aussi au gouvernement, à François Legault, de faire preuve de ce leadership-là, puis de s'imposer, puis justement dire, bien, effectivement, je vais revenir à ce que j'ai écrit dans mon fameux livre, là, pour un cap vers un Québec gagnant, le projet Saint-Laurent, puis retourner à ses bonnes vieilles racines, ou du moins ce qu'il faisait du politicien pour lequel vous avez voté pour lui en 2018, bien, qu'il redevienne ce personnage-là. Ouais. Ça serait peut-être quelque chose qui aiderait justement à l'acceptabilité sociale de voir cette forme de leadership au pouvoir. Donc, c'est un travail qui se fait à deux, inévitablement.
C'est ça. Je reviens à ce que Maître Bellemare me disait hier. T'sais, on se fait élire en étant de droite économique, puis une fois qu'on arrive au pouvoir, on devient un peu plus à gauche. T'sais, François Legault, on a des vidéos qui datent de 2017 où François Legault voulait réduire la taille de l'État. Et ce qu'on se rend compte depuis son mandat, c'est que la CAQ veut bien se dorer le blason en disant « ben savez-vous quoi, il y a plus d'emplois chez nous alors que c'est eux qui sont responsables de l'embauche. T'sais. Il n'y a pas plus d'emplois qui ont été créés, c'est plus eux autres qui ont créé de l'emploi en majorité. » Puis quand tu parlais de l'acceptabilité sociale, t'sais, quand c'est bien expliqué de la part d'un politicien puis que c'est expliqué d'une manière à ce qu'il n'y a pas de malentendu, je pense que la population est en mesure de se faire une tête sur ce qui devrait être bon pour eux ou peut-être mauvais pour eux. Puis je jasais avec un physicien spécialiste en physique nucléaire il y a de ça quelques semaines, puis on parlait du nouveau nucléaire. T'sais. Le nouveau nucléaire, Nick, là, c'est à la grandeur de la planète, c'est l'affaire la plus environnementale pour produire de l'électricité. Et ce qu'il m'expliquait, c'est que au Québec, on a tellement menti longtemps à nos résidents que de leur faire passer le fameux nucléaire, là, ce serait pratiquement impossible. Parce que les gens ils voient Gentilly, ils voient les centrales nucléaires qui ont explosé ailleurs dans le monde, puis ça a fait énormément de dégâts. Mais aujourd'hui, en 2025, la meilleure façon, la plus environnementale de produire de l'électricité, c'est les petits réacteurs nucléaires. On connaît la technologie maintenant, on sait comment l'utiliser, mais au Québec, ça ne pourrait jamais passer parce que les politiciens ben, préfèrent avoir Hydro-Québec, qui est la vache à lait du gouvernement, qui enrichit le gouvernement, dont on dépend, tout le monde dépend d'Hydro-Québec là, pour la plupart, en majorité, à 99%. Fait que ça prend une bonne volonté de la part des politiciens pour expliquer ce qu'il en est. Puis, ça prend de l'honnêteté aussi. Puis, dans le cas du nucléaire, exemple, il n'y en aura jamais d'honnêteté parce que les politiciens savent très bien que ça ne passera jamais le nucléaire au Québec. On a une méconnaissance du nucléaire.
Exactement. Puis, je suis quand même persuadé qu'au niveau de la population, il y a un rattrapage qui pourrait se faire assez rapidement. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait un écho à l'Assemblée nationale. Puis, c'est là qu'on voit que, tu sais, il y a une certaine. Il y a un fossé qui s'est carrément créé.
Nick, j'ai fait le test autour de moi. Je leur ai demandé, il y avait combien de réacteurs nucléaires au Canada? La plupart m'ont dit, il n'y en a pas, alors qu'il y en a 19 au total. On n'entend jamais parler de ces réacteurs-là. T'sais. Il y en a en Ontario, jusqu'à l'autre bout du Canada. On n'entend jamais parler, mais les gens ne connaissent pas les nouvelles façons de produire l'électricité, puis le gouvernement ne veut pas embarquer là-dedans. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, on va faire une courte pause, si tu le veux bien. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur cette fédération-là, on peut te retrouver à quel endroit?
Directement sur www.contribuable avec un s.ca. Sinon, sur Twitter ou X, pardon, je suis assez actif et facile d'accès. Donc, c'est à commercial Le Vrai Gagnon.
On fait une courte pause et on vient.
Marceau, le soir. Gravel, dans le retour.
C'est un drôle de timing parce que tu sais, quand t'apprends une nouvelle puis tu te demandes est-ce que j'en parle en onde alors que j'ai pas nécessairement fait le tour de mes proches. Fait que je me sens un petit peu mal. Fait que je vais me lancer parce que j'ai de la misère à le garder pour moi. Mon médecin de famille m'a appelé un peu plus tôt cet après-midi. Puis mon sperme va pas bien.
Ah, que t'es niaiseux.
Ah, oh, Denis, t'es tellement cave. Non, mais hey, sérieux.
T'as-tu vu Audrey changer de couleur?
Tabac, Denis. Hey, non, non, je la trouve vraiment pas drôle. Le cœur m'a serré.
Hey, puis il se trouve drôle, là.
Voyons, je pensais que t'étais sur le bord de brailler. Voyons.
Hey, mais quelle comédie.
Gravel dans le retour. Tous les jours en semaine, 14h.
Ouais, puis tous nos bons coups, les niaiseries d'Audrey, puis notre vie privée qui l'est plus pantoute, tu retrouves ça sur le blvd.fr.
Hey! Ça en fait des choses à écouter, ça.
Un an auparavant, au centre de glace Intact Assurance.
Allez, les gars, come on, je peux pas croire.
On sait jamais qu'on allait apprendre, là!
Hey, vous auriez pu donner plus, les gars, là.
Hey, ta gueule, la rouge!
Ouais, mais en même temps, c'est normal qu'on ait perdu qu'on s'était gameplay. Il s'appelle le bout en feu. Le bout en feu, man!
Hey, c'est normal. Ça, les boys, l'année prochaine, ça va être notre année.
Ça dépend de vos adversaires, ça, les gars.
Vous voulez-vous mesurer à la gang de Boulevard 102.1 le 20 mars prochain? C'est le temps de nous montrer ce que vous avez dans le ventre. Inscrivez votre équipe d'hockey dès maintenant au blvd.fm.
Soyez prêts pour l'événement de l'année. Plus excitant qu'un show de Kendrick Lamar. La classique annuelle Boulevard. Le 20 mars, au centre de glace Saint-Acte Assurance.
Salut la gang, c'est François Baudry, chroniqueur web de l'émission Gravel dans le retour. T'aimes mes chroniques? Tu veux en savoir plus sur le monde numérique? Rends-toi sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube.
Envie d'un véhicule électrique? Profitez de 90 jours sans paiement sur nos Equinox EV, Blazer EV et Hummer EV. Plutôt essence? Bénéficiez d'un taux aussi bas que 0% sur nos Silverado et Sierra 1500. Rendez-vous chez Marlin Chevrolet Buick GMC, 2145 rue Franck-Carrel.
Protégez-vous dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssontprotégés.ca.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeu de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs, 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Il y a l'économie de marché, l'économie planifiée, l'économie circulaire, les économies d'échelle, les économies de bout de chandelle. Mais chez Énergir, nous croyons d'abord à l'économie d'énergie. C'est pourquoi, depuis près de 25 ans, on aide nos clients à réduire leur consommation en les accompagnant dans des projets d'efficacité énergétique. Pourquoi est-ce qu'on tient à vendre moins de ce qu'on offre? Parce que l'économie d'énergie, ça profite à tout le monde. Énergir. Pensez l'énergie autrement.
Le plus gros solde de l'année est de retour aux instruments de musique Long et McQuaid. Notre grande liquidation se déroule à compter du vendredi 21 février pour toute la fin de semaine. Découvrez nos aubaines spectaculaires et profitez d'une offre spéciale d'étalement de paiement sur 12 mois sans intérêt en magasin. Visitez long-mcquaid.com pour en savoir plus. La grande liquidation seulement chez Long et McQuaid. Long et McQuaid, là où la musique commence.
Vous voulez vendre une maison, un immeuble ou un terrain? Les immeubles urbains font des offres d'achat rapides, sans conditions et ce, peu importe l'état de votre propriété. Service simple et efficace. Vendez facilement grâce aux immeubles urbains. Pour plus de détails, visitez immeubleurbain.ca.
Découvrez Wendake, une destination unique à proximité. Séjournez à l'hôtel, savourez des mets autochtones à la traite et sagamité, explorez le musée et le site traditionnel et vivez l'expérience en Wallumina. tourismewendake.ca.
Lorsque vous êtes malade et que vous avez des questions sur votre état de santé, plusieurs choix s'offrent à vous. Appelez au 811 ou consultez votre pharmacien pour savoir comment vous soigner à la maison. Si le problème persiste et que vous avez un médecin de famille, contactez votre clinique pour obtenir un rendez-vous. Si vous n'avez pas de médecin, utilisez le guichet d'accès à la première ligne pour être dirigé vers le bon professionnel. Pour plus d'efficacité, assurez-vous de recevoir le bon service par le bon professionnel au bon moment. Il existe d'autres options que l'urgence. Informez-vous au québec.ca/accès-santé. Un message du gouvernement du Québec.
Hey, cheers! Au nouveau proprio!
Merci! Ouais, c'est à nous, ça! Ouais, c'est tout à nous, ça!
Chez Alpha, on comprend que le stress de protéger votre maison peut s'inviter dans vos festivités. Alpha Assurance, assurément pour vous.
Allô? Je viens d'avoir un accrochage sur l'autoroute. Ma voiture est brisée. Je fais quoi, là?
Chez nous, on comprend les moments comme ceux-là. Pour votre assurance auto, appelez-nous. On va prendre le temps de bien vous aider. Alpha Assurance. Assurément pour vous.
À tous les voyageurs qui affirment que l'aéroport de Québec est trop petit, nous voulons vous dire...
Vous avez totalement raison. Il est trop petit. Trop petit pour s'y perdre, trop petit pour des files d'attente à n'en plus finir, trop petit pour courir vers son vol, avec un grand stationnement au prix trop petit pour s'en passer. Mais ça ne lui empêche pas d'offrir une multitude de vols directs et tous les avantages d'un grand aéroport international. Donc, demandez à votre conseiller en voyage de décoller de l'aéroport de Québec ou visitez décollerdequebec.ca. YQB, le plus petit des grands aéroports.
C'est le moment de vous démarquer. Louez le Volkswagen Taos 2025 à partir de seulement 3,49% sur 48 mois. Profitez d'un VUS compact qui allie style, confort et technologie avancée, parfait pour toutes vos aventures. Laval Volkswagen, sans fla-fla depuis 1968.
Être connecté à tout et branché aux atouts? Le quartier Mosaïque, c'est mon nouveau beat de vie. Borne de recharge, aire de travail équipée, resto café et bus à ma portée. Le quartier Mosaïque offre des condos locatifs branchés au cœur de Le Bourgneuf. Pour visiter, quartiermosaïque.com.
Faire mes courses à pied, puis ma marche à pied. Quartier Mosaïque, c'est mon nouveau beat de vie. À deux pas des galeries de la capitale et d'un immense boisé, le quartier Mosaïque offre de superbes condos locatifs au cœur de Le Bourgneuf. Pour visiter, quartiermosaïque.com.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock. Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
On passe la soirée avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Encore plein de sujets à aborder avec vous. J'ai vu que dans les dernières semaines, Nick, tu avais été, je ne sais pas si tu l'as fait avec la Fédération canadienne des contribuables ou si c'est une initiative personnelle, mais tu es parti en voyage en Afrique du Sud pour assister au dévoilement d'un budget. Mais qu'est-ce que tu es allé faire là? Puis en quoi c'était pertinent pour tes connaissances générales?
Bonne question. Ben, c'était pour prendre des vacances. Fait que je suis quelqu'un d'assez bizarre de même. Il y a du monde qui vont dans les musées, puis il y a des gens comme moi qui vont dans les discours du budget.
Au Botswana.
Au Botswana, exactement. Parce que dans le fond, j'ai fait quelques jours un petit voyage et je me suis arrêté à Paris. Puis après ça, je me suis arrêté à Johannesburg. Puis après ça, j'ai passé pas mal le reste de mon séjour au Botswana, dans la capitale de Gabronné. Pour donner une histoire courte, puis pour ceux qui savent pas c'est où le Botswana, c'est très simple. C'est juste au nord de l'Afrique du Sud. Puis j'espère que tout le monde peut positionner l'Afrique du Sud sur une carte. C'est au sud de l'Afrique. Ouais. On peut pas vous tromper là-dessus. Et c'est un pays gros comme la France, avec la population de Montréal. Il y a environ 2,3 millions d'habitants dans ce pays-là. Donc il y a quand même. Beaucoup de déserts, beaucoup de longues distances. Puis un peuple très, comment dire, il y a vraiment des institutions qui sont quasiment identiques aux nôtres. C'est un historique très intéressant par rapport au Botswana. C'est un des pays avec les meilleurs indices de littératie, de développement humain, de croissance du PIB en Afrique. Donc, c'est vraiment un pays très, très intéressant. Et ils ont des institutions britanniques, ou du moins, qui suivent à peu près le même modèle que nous. Et... moi, j'allais là pour deux raisons. De un, prendre un peu de vacances puis m'éloigner de toutes ces questions de guerre tarifaire là, et tout le kit. Mais aussi, je travaille dans mes temps libres à titre de consultant pour une boîte en fait qui fait du développement de projets d'énergie, de carburant propre dans cette région-là du monde. Okay. Donc, j'y allais aussi pour accompagner puis faire ça un peu à mes heures. Puis en même temps, j'y allais pour un peu faire ces différentes rencontres et voir des amis de longue date, etc. Et de fil en aiguille, une de nos rencontres, on est en mesure de rencontrer justement des membres de la Botswana Investment Trade Corporation. On a rencontré des gens de la Banque de développement sur place, etc. Puis on a reçu une invitation pour assister au discours du budget. Puis ces invitations-là, c'est quand même assez particulier parce que ça passe par le bureau du président, en fait. Donc, pour avoir accès à ce fameux budget-là, il faut avoir donc reçu l'approbation du président. Donc, je me suis dit, c'est quand même pas si mal quand même comme opportunité. Et j'ai assisté à un discours du budget. Il faut dire que c'est pas la première fois que j'assistais à ça au Québec et à Ottawa. J'ai déjà assisté à ces discours-là qui sont généralement prononcés, si je ne me trompe pas, à 4 h p.m. exactement. C'est le cas, par exemple, au Québec où est-ce qu'Éric Girard, c'est là qu'il va commencer à prononcer son discours, puis après ça, le budget est rendu public. Dans ce cas-ci, c'est un peu plus laborieux que ça. C'est un discours de 3 heures. Donc, on est loin de la formule au Québec où est-ce que c'est environ 30 minutes tout au plus, puis on explique les grandes lignes, puis après ça, on ferme le tout, puis on fait un cocktail. Donc, mais il en reste que c'était très enrichissant. C'est aussi, comme je dis, c'est un pays qui a aussi une grande appréciation du conservatisme fiscal. Donc, eux, la question de la dette, là, c'est quelque chose qui est très sévère. Là. Ils ont une dette d'environ 2 milliards US, puis ça les fait capoter. Là. J'ai pas osé leur parler de la dette du Canada. Là. Ils auraient fait un flip. Ils en seraient jamais revenus. Mais il en reste que les discussions sont très intéressantes. Les cultures sont, au niveau de la question des finances publiques sont très intéressantes. Fait que c'est le genre de choses que je fais dans mes temps libres quand je suis en voyage. Okay. C'est mon petit côté un peu nerd, mais c'est rien. C'est pas du tout lié à mon travail à la Fédération.
OK, mais je trouve ça intéressant. Y a-tu des similitudes dans la façon de dévoiler le budget et tout ça, mis à part bon, qu'au Québec et au Canada, c'est un peu plus court, là-bas, c'est un peu plus long. Y a-tu des similitudes?
C'est juste que c'est fait sur une plus longue période, c'est-à-dire que nous, ça se fait quasiment la même journée où est-ce que si je me trompe pas, là, les partis de l'opposition peuvent déjà s'exprimer dans les médias, puis aussi à l'Assemblée nationale, tandis que là-bas, ça se fait sur les jours qui suivent, mais ça suit à peu près le même protocole, puis sinon, les discussions là-bas, c'était encore une fois, par exemple, on augmente les pensions, on augmente il y avait des programmes sociaux supplémentaires qui étaient créés, il y avait la question de c'est quoi la croissance économique présente. C'est quoi la stratégie du gouvernement pour diversifier l'économie? Donc, c'est encore une fois, on a les mêmes discussions. Bien sûr, c'est des enjeux un peu différents parce qu'on est quand même en Afrique, au Botswana, donc c'est pas les mêmes problèmes que nous. Mais non, sinon, la formule était à peu près similaire. Puis même, il y a eu aussi quand même un grand rire parce qu'à la fin du discours, qui était particulièrement long, comme je vous dis, 3 heures, il faut vraiment être assis bien serré. Bien, le chef de l'opposition s'est fait poser la question par le président. Il s'est fait demander est-ce que l'opposition va être prête à livrer son plaidoyer, ou du moins ses critiques. Et lui, il était déjà prêt à le faire sur place, alors que ça se faisait dans 2 jours. Donc, il y a eu quand même un bon rire dans la place, où est-ce que vraiment, c'est aussi une démocratie qui est très saine là-bas. Il y a un combat qui a été fait en profondeur contre la corruption au courant des dernières décennies. Ouais. Puis, c'est aussi une petite société, là, parce qu'il faut dire 2,3 millions d'habitants. T'sais, imaginez, c'est Montréal dans un pays. Là, fait que les gens se connaissent là, assez bien. Puis donc, je dirais que même, c'est moins polarisé qu'ici, à la limite. Mais c'est pas de la politique de consensus comme on a à l'Assemblée nationale depuis un peu trop longtemps, à mon
sens. OK, mais 2,3 millions sur un coin qui est à peu près gros comme la France, c'est assez particulier. Faut que tu te méfies des fois, là, quand tu vas être en couple. Faut pas que ce soit ton cousin, faut pas que ce soit ta cousine.
Effectivement, mais c'est quand même assez particulier parce que l'Afrique du Sud, qui est collée sur le Botswana, essentiellement, ils ont... Il y a quand même une bonne population du Botswana. Il y a comme plus de Botswanais en Afrique du Sud qu'au Botswana. C'est quand même assez particulier, là, les questions culturelles et démographiques dans la région. Mais sinon, c'est un pays que je recommande pour les safaris ou sinon, peut-être pas pour les discours du budget d'un, c'est à tous les ans, puis il faut vraiment aimer ça, là. Mais sinon, pour les safaris, vous allez en avoir pour votre argent, ça c'est garanti.
Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que si tu dis que tu fais ce type de voyage-là, là, sur Tinder, d'après moi, on devrait te swiper peut-être plus à gauche qu'à droite, là.
Comment qui se pointe à gauche? Ben, j'avoue que c'est pas tout à fait un voyage que tu fais en couple, là, d'aller voir un discours du budget. Mais c'est plutôt un voyage que tu fais avec des collègues de travail, ben là, oui. Des partenaires d'affaires, puis des nerds de politique. Là, tu fais pas ça autrement. Là. Avec ta femme, ta blonde et tes enfants, tu vas faire autre chose. Là. Les safaris, c'est peut-être ce que je recommande le plus. C'est merveilleux. Là-bas, le zèbre, c'est leur vache sacrée, là, si on peut dire ça de même.
Ouais, je trouve ça franchement intéressant le voyage que tu as fait, honnêtement. C'est le genre de voyage que j'aimerais faire au moins une fois dans ma vie, mais visiblement, je serai seul quand je le ferai. Hey, tu parlais du Dodge tantôt. Aux États-Unis, on a appris c'était quoi le Dodge, puis il semble sauver énormément d'argent. Là. J'ai mon indicateur là, d'argent qui a été sauvé par le Dodge. Explique-nous c'est quoi exactement le Dodge qu'on a mis en place, puis pourquoi ce serait efficace au Québec, puis même au Canada?
Et le Dodge qui a été mis en place aux États-Unis, c'est le Department of Government Efficiency. Ça sert présentement à faire le ménage dans les différents départements du gouvernement américain dans le but justement de couper les dépenses puis d'éliminer, à mon sens, pour loin de 2 trillions ou 2 000 milliards, pardon, là, de dépenses qui seraient superflues, qui seraient frivoles et non nécessaires au fonctionnement du gouvernement américain. Donc, c'est quand même pas rien parce que le PIB du Canada, c'est environ 2,4 billions. Là. Donc, on est à peu près à la même place. Et eux, ils veulent couper au courant des 4 prochaines années l'équivalent de 2 billions. Puis, on a eu plusieurs annonces qui ont été faites, notamment là, la suppression complète de USAID, qui a quand même provoqué toute une tollée aux États-Unis puis ailleurs dans le monde. Mais il en reste reste que ça n'est que la pointe de l'iceberg de toutes les dépenses que le gouvernement américain a pu être engagé à faire au cours des dernières années à l'insu des contribuables. Et là, bon, sans nécessairement dire ce que j'apprécie Elon Musk ou pas, mais je pense que tout le monde peut apprécier un peu son travail parce que dans l'optique actuelle, même s'il y a beaucoup de coupures qui sont faites, c'est aussi toutes les dépenses les plus ridicules qui sont exposées. Et la réalité, c'est que si on peut trouver ça drôle aux États-Unis, c'est aussi vrai au Canada puis au Québec. Et ça devrait inspirer, en fait, nos gouvernements à faire le ménage pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est qu'autant qu'à Québec et à Ottawa, on a des déficits puis on n'a aucune idée quand est-ce qu'on va retourner à l'équilibre budgétaire. Le gouvernement du Québec, présentement, est sur le point d'utiliser un peu le couvert de la guerre tarifaire pour dire, ben finalement, le retour à l'équilibre, ça ne sera pas en 2030, donc on ne verra pas ça. Puis au fédéral, si on suit la tendance actuelle, ce n'est pas avant 2040. Donc, il y a tout un coup de barre qui doit être donné. Oui, c'est beau aussi d'aller de proposer, entre autres, de couper dans la bureaucratie. Je pense que c'est là le nerf principal pour aller dégager des économies importantes. Mais il y a toutes les autres comptes de dépenses des différents ministères et des différents départements du gouvernement fédéral, entre autres, qui valent la peine d'être considérés. Parce que nous, au cours des dernières années, on a été faire, entre autres, quelques découvertes, puis c'est ce qui nous a amené à peut-être monter tranquillement un dossier qui appuierait l'initiative d'un Doge canadien. On avait découvert, entre autres, je veux dire, à plusieurs... on peut commencer avec les dépenses frivoles de la gouverneure générale. Ça, c'est une affaire qu'on a souvent mentionnée. Pas juste ses augmentations de salariales, mais entre autres le fait qu'elle avait dépensé pour pas loin de 100 000 $ en repas d'avion en une semaine au Moyen-Orient pendant sa visite là-bas. On a parlé tantôt des fameuses dépenses pour l'alcool chez Global Affairs Canada. On a aussi découvert il n'y a pas si longtemps que Global Affairs a été engagé à verser pas loin de 530 millions de $ au courant des 20 prochaines années, des initiatives vertes pour l'équité des genres en Amérique du Sud et en Asie, alors que tu dis, ben, c'est quoi le retour pour les contribuables de la manière que c'est investi, cet argent-là, si on peut vraiment appeler ça un investissement. On a aussi appris qu'on avait le Conseil de recherche en sciences humaines au Canada qui consacre 1 milliard de $ par année là, à la recherche et à la formation en sciences humaines. Puis là-dedans, ils ont réussi à financer un paquet de niaiseries. Je vais t'en sortir quelques-unes. Ils ont, entre autres, ils ont envoyé un montant de 20 000 $ pour soutenir la politique de genre dans la musique rock au Pérou. Il y a eu aussi un projet de cartographie, donc suivre la naissance, la vie et la mort d'un chariot d'épicerie urbain du produit du travail à l'outil de travail. Donc, ça a coûté 105 000 $ faire cette étude-là.
Wow.
On a aussi dépensé, puis attention, on a dépensé dans un événement qui s'appelle Jouer pour le plaisir, là, l'expérience affective de jeux vidéo sexuels et érotiques. On a dépensé 50 000 $ là-dedans. Donc, c'est des niaiseries de même, puis tantôt, je faisais référence aux fameux 84 chevreuils qui ont coûté pas loin de 800 000 $ chez Parc Canada. Ça, c'est une autre société d'État qui est incapable de vraiment suivre ses livres comme du monde puis qui dépense pour toutes les raisons du monde. Donc, on a tellement sorti d'exemples au courant des dernières années que même à la Fédération, on a ce qu'on appelle les Teddies ou les Teddy Awards. Pour nous, c'est notre fameux congrès annuel où est-ce qu'on fait ça devant le public, c'est filmé, puis on expose les pires dépenses au niveau municipal, provincial, fédéral, puis on a aussi ce qu'on appelle le All-Time Winner. Là. C'est donc où je dirais le Teddy of all time. Fait que si on trouve la pire dépense possible, il y a quelques années, c'est Revenu Canada qui l'avait remporté avec la très mauvaise gestion du programme de PCU où est-ce que des millions de dollars ont été donnés à des personnes qui étaient soit mortes ou en prison. Donc, je vous dirais qu'on a quand même plusieurs très bons candidats au Québec pour 2024-2025. Là, je pourrais, mettons qu'on a un certain super ministre qui a démissionné il n'y a pas longtemps, qui fait partie des candidats qui pourraient recevoir un trophée cochon d'or. Mais au-delà du fameux gala et de l'initiative d'un Dodge, on espère, justement, que cette initiative-là soit faite par le gouvernement fédéral, qu'on prenne toutes les dépenses de tous les départements, de tous les ministères, au fédéral comme au provincial. C'est un exercice qui doit être fait de manière distincte, mais ça doit être fait de manière, en profondeur. Donc, vraiment exposer autant le nombre de fonctionnaires attitrés à chaque programme que le nombre de programmes et le coût et le budget attitré pour ceux-ci, pour chacun des ministères. Et j'arrive ici parce que j'en avais fait référence auparavant. L'exercice a déjà été fait au Canada. Il faut juste le refaire comme ça a déjà été fait et on va s'en tirer assez bien. Entre autres, on a Jean Chrétien qui l'a fait dans les années 90 Puis ça a permis au gouvernement de rembourser sur sa dette pas moins de 100 milliards de dollars. Donc, l'exercice a déjà été fait puis a déjà porté fruit. Et là, s'il se fait au niveau fédéral américain, bien, on a toutes les raisons du monde de s'en inspirer. Puis les 6 questions, puis ça, je vais finir là-dessus, il y a 6 questions qui sont à poser qu'on fait cet exercice-là. Puis c'est des questions qui sont vraiment là, no-brainer. La première, c'est est-ce que ça sert l'intérêt public quand on regarde un programme? C'est un n'importe quel ministère. Est-ce que ça sert l'intérêt public? La deuxième, c'est est-ce que l'implication gouvernementale est nécessaire? La troisième, c'est est-ce que le rôle est approprié pour le palier gouvernemental en question? Quatrième, c'est est-ce qu'il y a un partenariat public-privé est possible ou désirable pour remplacer cette initiative? Cinq, est-ce qu'il y a un moyen plus efficace de le faire? Puis six, c'est la question qui tue, est-ce que les contribuables ont les moyens de se payer ces dépenses? Puis si on a plus de non que de oui, ben ça s'en va dans le chariot des programmes dont on se débarrasse. Et la réalité, c'est que ça devrait faire partie aussi du DOGE, de ce que je comprends, mais c'est un examen plus large qui s'appelle l'examen des révisions des dépenses gouvernementales, qui devrait être fait de manière assidue puis permanente. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'est le moment ou jamais de ramener l'exercice sur la table puis de le faire, parce que, tu sais, tantôt, on parlait des politiciens qui veulent rester populaires puis qui veulent pas faire ce qui est impopulaire en considérant qu'on veut pas se battre contre la mêlée ou contre certains groupes de pression. Ben, entendons-nous, on est en 2025. S'il y a un moment ou jamais pour que le gouvernement du Québec commence à faire un peu de ménage, c'est là. Parce qu'en 2026, on tombe dans une année électorale. Ça n'existe pas un gouvernement qui fait un ménage dans les dépenses en pleine année électorale. C'est toujours le contraire. C'est toujours des chèques, des promesses. Puis on veut s'acheter la paix avec les groupes de pression puis les syndicats pour mettre les chances de notre côté. Puis ça, c'est aussi vrai avec les libéraux, les péquistes, les caquistes, les libéraux au fédéral puis les conservateurs. Donc, l'horloge tourne et il serait temps que le ménage soit fait. Sinon, ben, s'il se fait pas maintenant, quand est-ce qu'il va se faire? Et plus on attend, plus on dépense et moins les contribuables voient un retour sur leur argent.
Ouais, je vais reprendre une phrase que j'ai lue il y a de ça quelques temps. La machine protège ses chasses gardées, puis la classe politique craint les controverses, donc achète la paix. À la Fédération canadienne des contribuables, vous travaillez extrêmement fort pour faire la révision des programmes. Puis il y a un média alternatif de droite qui avait fait quelques recherches, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, là, ça s'appelle Rebel News. Puis il y a des gens qui ont contre-vérifié l'information qui était rendue publique par Rebel News. Puis ça s'avère vrai, parce qu'on a fait la révision de certains programmes. On a appris qu'il y avait 46 793 $ qui ont servi pour améliorer les soins de santé et les droits de la personne intersexuée dans la province de Shandong, en Chine. On a appris qu'il y avait 4,6 millions de $ pour la masculinité positive à Cuba. On a appris qu'il y avait 449 383 $ pour créer des serviettes hygiéniques à partir de déchets agricoles et alimentaires. Bon, il y en a qui vont dire qu'il y a une fixation sur les programmes d'équité et d'inclusion, là. Ça se peut que ce soit vrai. Dans la mesure pas moins que, bon, les gens de la Chine, les j'aime beaucoup. Mais à Montréal, à Québec, on a des gens qui ont des difficultés, puis faudrait s'en occuper de ces gens-là. Puis ce 50 000 $-là qui a servi à aller à Shandong, en Chine, aurait très bien pu servir pour nous autres. Je trouve ça hallucinant, toutes ces dépenses-là. Puis oui, un Dodge au Québec, un Dodge au Canada, ça serait intéressant. Est-ce qu'on pourrait le faire faire par un organisme indépendant?
C'est une très bonne question. Je pense que ça serait même mieux si c'était fait par un organisme indépendant que par le gouvernement, parce que, encore une fois, l'exercice est assez dur à effectuer. Et on s'entend, c'est de dire à tous tes ministres, là, tu te pointes à la commission, là, tu amènes tous les livres ouverts, puis on va tout ce qui a été fait au cours des dernières années, ben, ça va être exposé, essentiellement. Et donc, si tu étais le ministre concerné, peut-être que tu vas commencer à t'en faire un peu. Je ne dis pas que les gens vont se mettre à magouiller puis à cacher de l'information, mais c'est toujours mieux si ça passe par un organisme indépendant. Bien sûr, il y a toute la question, bien sûr, de la sécurité des informations et des éléments critiques qu'on veut s'assurer de préserver. Je pense que ça peut être très bien fait dans une forme de partenariat où est-ce que le gouvernement s'entend avec une entité indépendante pour vraiment livrer tous les documents qui sont nécessaires à l'évaluation des dépenses du gouvernement. Mais il faut qu'il y ait au moins une volonté politique à le faire. Puis ça, c'est peut-être la chose qui est la plus dérangeante présentement, ne serait-ce qu'au Québec. Au Canada, on se doute que peut-être que, je prends un exemple, on regarde les sondages, on se doute que le prochain gouvernement risque peut-être d'être conservateur. Puis on sait que Pierre Poilievre n'aura pas le choix de faire des coupures importantes pour financer ses baisses d'impôts et ses baisses de taxes, comme il veut faire. S'il veut abolir la taxe carbone, il ne veut pas, c'est moins de revenus pour le gouvernement. Si le fameux déficit a augmenté drastiquement à cause du fait que finalement, on n'ira pas chercher 7 7 milliards en impôts sur le gain en capital, ben qu'est-ce qui arrive si on ne va plus chercher la taxe sur le carbone? Qu'est-ce qui arrive si ci et ça? Et ce n'est pas juste en définançant Radio-Canada qu'on va être en mesure d'équilibrer les livres. Donc, il y a un travail, il n'y aura pas le choix de faire, lui, de son côté, un ménage au niveau de la fonction publique qui a augmenté drastiquement. C'est 108 000 fonctionnaires de plus depuis 2015. On sait qu'il n'y aura pas le choix de s'attaquer à ça et inévitablement, peut-être à s'engager à faire le fameux exercice de l'examen des révisions des dépenses du gouvernement. Mais au provincial, où est la politique, où est plutôt la volonté politique pour le faire? On sait que, bon, il y a le Parti conservateur du Québec qui en parle, etc. On aimerait ça avoir peut-être le Parti libéral du Québec. Pour l'instant, ils sont en course à la chefferie, puis le prochain chef de cette formation-là est un ancien ministre, du moins, on ne s'est pas encore fait, là, mais possiblement que Pablo Rodriguez va devenir le prochain chef du PLQ, puis j'ai hâte de voir s'il va emmener aussi les mêmes politiques qu'il y avait au PLC. Donc, on aimerait ça peut-être que la CAQ prenne les devants là-dessus, mais en même temps, la CAQ s'est fait élire sur cette promesse-là, sur la promesse d'un État moins gros, d'un État avec moins de bureaucratie, avec moins de fonctionnaires, puis aussi moins d'impôts et tout ça. Puis finalement, bon, on a eu une baisse d'impôts de 1 % puis il y a eu l'harmonisation de l'impôt ou du moins des taxes scolaires. Mais pour le reste, on a vu l'État augmenter drastiquement. Il y a 72 000 fonctionnaires de plus sous M. Legault depuis qu'il est arrivé au pouvoir. On a augmenté les dépenses à tous les niveaux. Le budget en santé depuis 2018 a quasiment doublé. Puis pourtant, je ne suis pas sûr que les gens n'ont plus pour leur argent maintenant quand ils vont à l'urgence. Donc, il faut qu'il y ait une volonté politique qu'on continue à marteler le message, qu'on continue à faire pression. Puis nous, notre côté, c'est un peu ça notre travail. À la fin de la journée, on ne fait pas juste être dans les médias. On a tout aussi des gens qui nous suivent, qui suivent nos infolettes et nos infoactions, et qui prennent action quand on leur dit « Écoutez, c'est le temps ou jamais de dire à Éric Girard de reculer sur l'impôt sur le gain en capital. » Bien, écoutez, dans une fin de semaine, on a mobilisé des centaines de personnes qui ont bombardé sa boîte à courriel. Je peux vous dire que quand il a fait sa conférence de presse le soir même, là, il n'était pas très, très content de faire l'annonce, peut-être parce qu'il avait encore en tête toutes les centaines de courriels qu'il avait reçus au courant du week-end. Mais à la fin de la journée, c'est pacifique. On respecte la démocratie, c'est fait de manière polie et on obtient du changement. Puis c'est comme ça qu'on va l'obtenir tranquillement, mais sûrement.
Juste que Nicolas, tu vas avoir ta photo sur son jeu d'or au party des fêtes des employés de la Coalition Avenir Québec. Tu vas faire partie du décor, j'imagine.
je vais le prendre comme un compliment.
Ouais, exact. Mais en 30 secondes, je te pose cette question-là. C'est une question peut-être d'ordre un peu plus personnel. Là, je veux entendre ton opinion parce que c'est quelque chose que je constate. Quand on retire des droits ou on retire de l'argent à des organismes qui sont un peu plus de la gauche. Ces gens-là sortent dans les rues et c'est une belle organisation. Ils veulent se faire entendre, sont fâchés. Mais quand on retire l'argent des poches des contribuables, on entend rarement parler. C'est particulier, hein? Parce qu'on est les citoyens les plus imposants en Amérique du Nord, mais on ne fait rien pour ça, si ce n'est que de lire les nouvelles, de ce qu'on nous rapporte sur Journal de Québec, Journal de Montréal, La Presse, Le Soleil. On lit ça, puis là, on voit la Fédération canadienne des contribuables qui nous parle de scandale. Qu'est-ce que les politiciens ont fait avec notre argent? C'est épouvantable. Puis on passe à d'autres choses, tandis que quand tu retires de l'argent à des organismes, ces gens-là sont hyper bien organisés. Ils sortent des rues, mobilisent la rue au grand complet, envoient promener les politiciens, puis là, les politiciens, ils ont peur. Pourquoi les gens, les contribuables, se plaignent pas comme ces organismes-là?
C'est une bonne question. Puis ma première réponse est généralement très baveuse, là. C'est parce que les contribuables sont occupés à travailler. C'est pour ça que c'est un peu difficile de toujours se mobiliser quand on augmente les impôts de ceux qui contribuent à la société de manière nette. Et puis, je veux dire, on est tous des contribuables à la fin de la journée, on est tous des travailleurs. Donc, si on ne vit pas au crochet de l'État, si notre organisme ne vit pas au crochet de l'État, ben c'est un peu difficile pour nous de se mobiliser puis de brasser la cage, de bloquer les ponts et tout ça. Puis aussi, je pense que plus ça avance, plus les gens réalisent qu'on peut avoir un poids politique, ne serait-ce que sans nécessairement passer par la rue pour le faire. Comme je dis, nous, on a été en mesure d'instrumentaliser nos bases de courriel, nos bases de données de courriel pour être en mesure justement de faire de la pression à la bonne place et ça fonctionne. C'est sûr que bon, ça fonctionne une fois tous les quelques mois parce que c'est saisir l'opportunité, c'est de cibler le bon enjeu, c'est de mobiliser le bon nombre de personnes puis c'est de marteler. Donc, il y a aussi le fait que veut pas, se mobiliser en tant que contribuable puis de faire une manifestation pour les baisses d'impôts, je suis pas sûr que ça arriverait pour toutes les raisons du monde parce que c'est un enjeu qui est dur à expliquer, puis il y aura toujours, c'est pas tout le monde qui est touché de la même manière par une baisse d'impôts. Donc, peut-être que la volonté à s'unir là-dessus, c'est pas la même chose. Par contre, là où est-ce que les gens peuvent se rassembler davantage, c'est justement dès qu'il y a des politiques qui sont nommées, dès qu'il y a des annonces de subventions, il faut qu'elles soient dénoncées. Puis nous, on fait notre travail, mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut écrire à son député. Tout le monde peut écrire à son ministre également. Tous les courriels sont directement en ligne, sont sur le site de l'Assemblée nationale. C'est transparent, puis ils ont des staffers qui s'occupent de les lire. Et plus souvent qu'autrement, vous seriez surpris à quel point ça affecte un ministre. J'ai parlé à quelqu'un à l'interne de la sécurité d'un des anciens ministres au fédéral, puis il nous a dit là, à l'époque, c'est pas des blagues, quand nous on reçoit 20 courriels sur un enjeu quelconque, là, c'est la panique. Donc imaginez, si vous vous mobilisez ne serait-ce qu'un peu, la panique peut prendre. Donc les contribuables, je pense qu'il y a une manière plus intelligente que de bloquer la rue, les ponts, les infrastructures pour se faire entendre, et ça tout en continuant à être des éléments, des contribuables nets à notre société. Puis il faut juste, gérer ça le mieux que possible, mais t'as raison, les organismes, il y a des organismes, les défenseurs du statu quo, comme j'aime les appeler, eux sont assez bien financés aussi par leurs alliés, des différentes centrales syndicales, et veut pas, c'est elles qui vont plus souvent qu'autrement sortir dans la rue et faire du bruit. Mais il faut quand même se calmer, c'est pas eux qui représentent la majorité.
T'as dépassé ton 30 secondes, ce qui fait en sorte que tu vas être obligé de revenir au podcast pour les prochaines semaines, parce que j'avais d'autres questions pour toi, mais il y a quelque chose que les gens peuvent faire. Les fameux payeurs de taxes qui sont tannés d'être les citoyens les plus imposés en Amérique du Nord, on peut se joindre à la belle organisation de la Fédération canadienne des contribuables. Vous l'avez dit, vous êtes un organisme sans but lucratif, puis on peut contribuer, nous, en donnant un montant d'argent qui va faire en sorte qu'en haut, il y a quelqu'un qui va nous défendre les droits, puis rendre public les grosses dépenses ignobles du gouvernement, tant du côté du fédéral que du provincial. Nicolas Gagnon, c'est un plaisir de jaser avec toi pendant toutes ces